Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur Art District, nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec un dessinateur scénariste que j'aime beaucoup. Comme d'habitude, je n'invite que des gens dont j'aime le travail. Je suis avec Philippe Jarbinet qui publie le 9e volume d'une série absolument géniale qui s'appelle Airborne 44. Avant de commencer, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes ?
Bonjour, je suis dessinateur de bande dessinée, scénariste également, coloriste. Et à partir de 2009, j'ai travaillé sur la série Airborne, qui est plus proche de mes centres d'intérêt édition, ceux qui m'ont envoyé faire de la bande dessinée.
La série Airborne, c'est à la fois une longue série et en même temps c'est un concept, puisqu'on suit une histoire au long cours, qui est l'histoire de l'armée américaine qui débarque en Europe à partir de juin 44. Mais cette longue série est découpée en diptyques de micro-histoires de deux albums. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de la série et de l'idée générale de sa construction ?
Quand je suis rentré dans ce système-là, j'avais une profusion d'histoires à raconter, mais on m'avait dit à l'époque que ça ne marcherait probablement pas parce que les Secondes Guerres mondiales intéressaient assez peu de monde. Et comme j'y tenais vraiment comme à la prunelle de mes yeux, je me suis dit je vais quand même le faire, mais je ne vais pas prendre trop de risques, je ferai 4 albums. Et fil en aiguille, mais voilà, j'en suis à mon 9e, bientôt le 10e.
Oui, parce qu'il faut effectivement 2 albums à chaque fois, parce que c'est pas que des histoires de guerre. C'est ça, je trouve, qui fait l'intérêt de cette série, c'est que les personnages sont extrêmement fouillés. Ça, c'est une des forces, je trouve, de Airborne 44. Et puis, surtout, il y a des va-et-vient permanents entre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais l'actualité à la fois européenne et américaine. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant dans la série.
Moi, je suis quelqu'un, enfin, je suis contemporain, j'écris aujourd'hui donc, et je dessine aujourd'hui. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est évidemment lié au monde dans lequel je vis. Et le monde dans lequel je vis, d'abord, il est l'héritier direct de la Seconde Guerre mondiale, pour des tas de raisons, médicales, techniques, je vais même dire morales, historiques. On est vraiment, même 80 ans plus tard, on est quand même encore dans cette prolongation. Je pense que tout ce qui me tracasse ou me peut trouver, être exploité en bande dessinée, dans Airborne, c'est le thème qui compte le plus. Le thème ici, par exemple, c'est le racisme et le rapport au père.
Mais voilà. Vous abordez même des thèmes extrêmement complexes et extrêmement étonnants, puisque je crois que c'est dans la série précédente ou celle d'avant, vous parlez carrément de problèmes économiques, des subprimes, des choses comme ça. Comment vous articulez des choses, des problèmes assez conceptuels avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ?
Moi, je suis comme tout le monde, je m'inquiète de ce qui se passe dans le monde. Et en 2011, quand la crise économique a débarqué, je me suis posé la question, étant comme tout le monde, de ce que ça allait avoir comme impact sur moi. Et ça m'a permis justement de... Airborne me permet d'aller plonger dans l'histoire et dans les archives pour voir comment la crise de 29, qui a duré pendant toutes les années 30 et qui a débouché sur la Seconde Guerre mondiale, comment elle s'est résolue et les écueils qu'on a évité, je n'en sais rien, dans la gestion de la crise de 2008-2011. Donc voilà, moi, le fait d'aller prospecter pour me rassurer ou m'inquiéter, je ne sais pas, c'est exactement ce que j'utilise pour faire l'album. Donc je pars de quelque chose qui me touche profondément pour aller pour l'explorer de manière historique. L'histoire se répète constamment. Alors la situation change et les réponses qu'on apporte à des situations doivent également changer. Mais dans le fond, nous humains, nous sommes toujours les mêmes, avec peut-être les mêmes réflexes. Donc puiser une sorte de sagesse dans l'histoire, c'est toujours utile. Et voilà, c'est ce qui transparaît un peu dans Airborne. À chaque diptyque, son thème est différent.
Donc dans le dernier diptyque, vous traitez du racisme, notamment à travers les figures des soldats noirs américains qui ont débarqué soit en Afrique du Nord, soit en Normandie, soit en Provence ou en Italie. Vos albums sont hyper documentés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la situation des soldats noirs dans l'armée américaine à ce moment-là ?
Les soldats noirs, déjà, il faut savoir que l'historique de leur participation aux guerres américaines remonte à déjà la guerre de sécession, Et la guerre de sécession, en fait, quand on supprime l'esclavage en 1865, en fait, on ne le supprime pas vraiment, en tout cas pas dans les États du Sud, et jusqu'en 1877, le Nord va occuper le Sud, et puis on abandonnera le Sud, en fait, à ses propres lois, les lois Jim Crow, qui vont, comment dire, perdurer dans le Sud américain. Et en fait, la situation des Noirs américains a très peu évolué après 1877, donc jusqu'en 1914. Là, je dirais même 1917, donc les boys américains débarquent en Europe, notamment dans la Somme, dans la Meuse, surtout dans la Meuse. Et on envoie les Noirs américains qui, à cette époque-là, vont être en fait hébergés, dirigés par la 161e division d'infanterie française. Et ils vont en fait se comporter extrêmement brillamment dans cette division. Et les Français sont extrêmement heureux de les avoir à leur côté. Et je crois que c'est quand même le début de quelque chose de très particulier avec... entre l'armée française et les Noirs et les soldats américains, parce que en fait ils vont amener le jazz, ils vont amener le blues, ils vont amener le ragtime dans la société française. Et dans les années 20, les années folles, en fait, quelque part, ça vient aussi de la musique noire américaine. Donc je crois que les Noirs américains ont vu en France qu'ils étaient extrêmement respectés pour ce qu'ils étaient, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient dans l'armée américaine ou dans la société américaine.
Oui, oui.
En fait, quand on les envoyait en 44 en Europe, on les envoyait non pas souvent comme des combattants, quoi qu'ils l'ont été aussi, mais on les a envoyés aussi plutôt dans la logistique, dans des composantes de l'armée dans laquelle ils ne manipulaient pas énormément d'armes. Donc il y a quand même beaucoup de noirs combattants, notamment dans les unités de blindés et dans les unités d'artillerie. Mais voilà, globalement, on ne peut pas dire qu'on les a mis en première ligne. Les grandes médailles qu'on a remises aux soldats pendant et après la guerre, c'est quand même pas les soldats noirs qui ont eu la plus grande partie. Or, ils ont représenté jusqu'à 30 à 40% du contingent américain, mais on ne le sait pas en fait. C'est très caché. Enfin, c'est pas que c'est caché, mais disons que c'est très peu diffusé.
Oui, c'est ignoré, disons.
Ignoré, voilà.
Est-ce que vous pouvez commencer à nous raconter l'histoire de ce 9e volume de Airborne 44, voilà, pour donner envie aux auditeurs de se plonger dans cette histoire. Donc vous traitez du racisme, vous racontez aussi que c'est en partie à cause du moment Trump aux États-Unis que ce souci vous a travaillé. Et que vous avez eu envie de faire cet album.
En fait, en 2005, quand j'ai commencé à travailler sur la série, j'habite pas loin d'un petit monument qui est dédié à des soldats noirs américains qui étaient au nombre de 11 et qui ont été massacrés par une unité de la SS. Et j'avais voulu à cette époque-là les intégrer dans le premier diptyque, mais ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas utiliser, enfin, c'était pas possible. Il y avait trop de matière à traiter. Et je leur ai juste consacré deux planches dans le tome 2. Mais en me promettant d'y revenir un jour. Et ici, l'élection de Trump en 2016, qui était pour moi extrêmement surprenante et c'est assez pitoyable, en fait. Ça m'a vraiment travaillé. Et en fait, pendant tout son mandat, à part le racisme a commencé à se répandre un peu partout. Ça s'est décomplexé de manière très forte. Et pas que aux États-Unis, d'ailleurs. Ça s'est décomplexé en Hongrie, au Brésil. Voilà. On peut dire un peu partout qu'il y a une sorte d'émergence de populistes qui se sont enfin sentis libérés et qui ont pris dans leur propre pays des lois absolument consternantes. Qu'est-ce que je ne peux pas dire autrement? Autre chose, c'était vraiment un retour en arrière. Et donc, je me suis dit, vraiment, c'est le moment maintenant, puisque je terminais le tome 8, de me lancer sur ce thème-là, en fait, qui m'a toujours touché. Voilà. Donc, Airborne, ici, c'est le racisme et la ségrégation, c'est ce qui sous-tend le thème des tomes 9 et 10. En plus d'une sorte du rapport au père, parce que je pense que le rapport aux parents, en fait, et à l'éducation m'est venu assez vite, parce que le racisme n'est pas une question, c'est peut-être qu'on est raciste naturellement, je n'en sais rien, mais c'est surtout une question d'éducation. Le manque d'éducation vous conduit, à mon avis, à voir les choses de manière très simple. Donc, voilà, le rapport au père était forcément évident, parce que les individus ne sont pas que ce qu'ils décident d'être, en fait. On les forme, l'éducation est devenue le deuxième thème de l'album, un peu par nécessité. Et donc, en fait, voilà, j'ai deux personnages, Virgil et Jared, qui viennent, l'un noir, l'autre blanc. Un noir qui a quand même fait des études, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des études au Morehouse College d'Atlanta. D'ailleurs, Martin Luther King y a été, et il n'est pas le seul. Des acteurs américains sont allés aussi à ce collège-là. Donc, en fait, on pouvait sortir avec des compétences, mais on ne pouvait pas être ingénieur comme un soldat, comme un blanc. On n'avait pas vraiment les mêmes diplômes. Donc, mais malgré tout, il y avait une volonté de beaucoup de Noirs de s'en sortir à cette époque-là, malgré le fait que l'armée était toujours ségrégationniste.
Ouais,
donc,
oui.
On était engagés par l'armée, justement, parce que c'était une façon de vivre qui était comment dire, assez confortable. On avait un salaire, on avait un toit sur la tête. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de, dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup d'endroits, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Donc, voilà, j'essaie d'aborder ça. Évidemment, ce n'est, entre guillemets, que de la bande dessinée. Je ne fais pas un essai sur le racisme, sur la ségrégation.
Non, mais on peut faire passer des idées puissantes dans la bande dessinée. Ça, c'est aussi une autre...
Disons qu'on a un support de l'image, et pour moi, le dessin est très important. La bande dessinée, ce n'est pas qu'un sujet qu'on traite de manière intellectuelle. Je suis aussi très manuel dans la mesure où j'adore dessiner, et je trouve que le dessin doit véhiculer quelque chose que le texte ne dit pas.
Oui, d'ailleurs, dans votre dessin, ce qui est vraiment intéressant dans tous les volumes, c'est que le dessin transmet une véritable, j'allais dire ambiguïté, mais c'est pas une ambiguïté, mais une richesse de personnages. Les personnages sont pas tout d'un bloc, ils évoluent beaucoup. Là, dans le premier volume du tome 9, le blanc et le noir sont pas caricaturaux, quoi. C'est ça que je trouve qui est très intéressant. Et ça, on le voit vraiment dans le dessin. C'est une des forces de votre dessin, je trouve.
J'essaye de rester connecté, en tout cas, à celui que je suis. Donc, j'assume totalement mes positions. Et dans mon histoire, je défends, entre guillemets, mon point de vue. Je veux jamais qu'on perde de vue que c'est quand même la vie que moi je porte et qui sous-tend l'histoire. Donc,
Tout au long des albums, on sent une vraie tendresse pour les GI américains. Est-ce que c'est moi qui interprète ou est-ce que c'est ce que vous ressentez?
C'est-à-dire que je suis très touché, très 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 attaché aux faits historiques, aux grands faits. Mais ce qui me touche le plus, c'est parce qu'en fait, de nouveau, lié à l'enfance, le fait que quand j'étais petit, et j'ai 56 ans, c'est Dieu sait si ça remonte à loin, il y avait beaucoup de soldats américains, pas beaucoup. Moi, j'en ai connu quand même quelques-uns qui venaient dans le village où j'habitais, qui était notre village d'enfance, et je les ai vus pleurer dans le jardin, et ça m'a marqué parce que c'était des grands gaillards de 50 ans qui revenaient à l'époque, ils n'étaient pas si âgés que ça, ils revenaient avec leur famille, ils venaient montrer l'endroit où ils avaient failli mourir, où ils avaient vu des amis mourir, et moi j'ai jamais vu les GIs comme des individus, comme des héros, tout, rien, jamais, je les ai vus moi comme des hommes normaux qui avaient fait des choses quand même copieusement anormales. Donc c'est ça qui me touche, c'est pas le fait que j'ai jamais essayé de faire un portrait dithyrambique de l'armée américaine, je ne me fais aucune illusion sur ce que sont les armées.
Voilà. Oui, c'est pour ça que j'emploie le mot tendresse pour les soldats, et pas, il y a évidemment pas spécialement d'admiration pour l'armée, mais il y a une vraie proximité avec tous ces hommes, quoi.
Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai des enfants, comme beaucoup de gens, donc tu vois bien, j'ai trois filles... Je serais effaré qu'elles soient envoyées à la guerre pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Et les guerres, ce n'est que ça. On envoie des jeunes qui n'ont même encore rien compris à la société dans laquelle ils grandissent. Et on les envoie au front se faire échapper, étrier, souffrir, mourir pour des idées ou des faits pour lesquels ils n'ont aucune responsabilité. Et la quasi-totalité des guerres, c'est comme ça. Si on envoyait des gens de 50, 60 ans au front, je pense que la guerre ne durerait pas longtemps. Et c'est ce qu'il faudrait faire, d'ailleurs. Quand on voit la Première Guerre mondiale avec les généraux français, ils ont été sacrément généreux avec le sang des autres. Donc, quelque part, et les guerres durent parce que, tout simplement, il faut épuiser la jeunesse de l'autre pays. C'est ça, une guerre. Et quand l'autre pays est à genoux et ne peut plus fournir ni sa jeunesse, ni ses compétences, ni sa puissance économique, la guerre s'arrête. Mais en arriver à des situations pareilles, c'est affligeant. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, je vais quand même pas me faire le défenseur de l'idée de la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes qui la font, et les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes.
Oui, il y a beaucoup de femmes, ouais. Vous faites la transition avec ma nouvelle question, en parlant de la Première Guerre mondiale, parce que dans cet album, il y a un rapport historique avec la Première Guerre mondiale, puisque le héros noir est le fils d'un soldat américain qui a débarqué, donc en 1917.
Oui.
Donc là, l'histoire s'accroche, j'allais dire. En plus, ils sont musiciens tous les deux. Donc vous parliez de l'arrivée du jazz et du ragtime et du blues et de toute cette musique avec les soldats américains. Là aussi, vous pouvez nous raconter l'histoire de ce père et de qu'est-ce qu'il fait en France, pourquoi il revient en France, qu'est-ce qu'il fait là, parce que c'est très important.
Mais d'abord, le blues m'a toujours beaucoup plu. Ça, c'est une chose. J'étais très attaché à cette musique depuis toujours. Mais je ne voulais pas nécessairement parler du blues dans celui-ci, mais en cherchant de la documentation depuis plusieurs années avant, je m'étais rendu compte qu'en fait ça a eu de l'importance très forte. Et j'ai donc appris plein de choses sur les rapports des soldats noirs avec l'armée française. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer le personnage du père, Alvin, Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand les soldats noirs sont rentrés chez eux aux États-Unis, on n'a pas, on les a passés. Ouais. On a quand les Harlem Hellfighters qui s'étaient battus en France sont allés défiler dans le Bronx, dans le Queens, en Harlem, le président américain n'y est pas allé. Il est allé en vacances. Donc quelque part, on n'a jamais voulu les célébrer. Donc ils ont, mais par contre, ils ont reçu la Légion d'honneur française. Ils ont été célébrés sur les Champs-Élysées. On voulait plus les célébrer sur les Champs-Élysées et c'est le gouvernement américain qui l'a interdit au gouvernement français. Donc d'une certaine manière, je pense que la France aurait voulu les honorer beaucoup plus qu'elle n'a pu le faire en fait. Et c'est tout ça qui m'a amené à créer le personnage d'Alvin parce que il est revenu dans mon histoire, il revient en France et c'est là que sa vie redevient heureuse en fait. Et ça, c'est peut-être une prémisse à l'arrivée de Miles Davis et d'autres musiciens américains. Il y a eu beaucoup de musiciens américains dans l'armée américaine qui ont joué dans les rues françaises, au Havre, à Brest. Mmh. Et donc et je pense que ça a marqué quand même l'imaginaire parisien français de l'époque parce que toutes les années folles, et aussi les années 50 en France avec Juliette Gréco, tout ça, ça vient de ces noirs américains qu'on a découvert peut-être dans les années, entre les années 20 et les années 40. Ça a été très important, moi, je crois, pour la France, pour même la culture française.
Oui, bah, ça a fécondé toute une partie de la musique, même de la musique savante, hein,
oui,
Francis Poulenc, Darius Milhaud, tous ces gens-là ont écouté le jazz et les musiciens noirs américains, hein, jusqu'à Josephine Baker, enfin voilà, tous ces gens qui ont fait en grande partie les années folles, les années 20, 30 en France. Quoi.
Oui, c'est vraiment très très important, et on en revient de nouveau au monde de la culture, qui est actuellement très bridé, mais quand vous regardez, on oublie les soldats, on oublie tout ce qu'ils ont fait, mais en fait, ce qui reste de tout ça, c'est la culture. Et c'est fondamentalement important, vraiment. Je répète, je fais de la bande dessinée, je fais pas une thèse, on est d'accord.
Non, c'est pas une thèse, mais quelquefois le roman ou la fiction permet de raconter des histoires qu'on ignore quelquefois on a envie de se documenter en plus du romanesque.
Une bande dessinée, enfin, en ce qui me concerne, c'est 100% de documentation, j'utilise 5%, mais ces 5%-là sont piochés dans les 100%. Si je n'ai pas les 100%, je peux pas avoir les 5 non plus. Voilà. Et c'est vrai que ça me mène parfois sur des chemins dont je ne parle même pas dans l'album, tout simplement, c'est pour ma culture, ma curiosité personnelle. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bande-son avec cet album. Il y a de la musique qui a été composée spécialement pour cet album, si j'ai bien compris.
Free on the soil of Africa, under our forefathers' sun.
C'est une boutade au début parce que page 7, je fais chanter Virgile une chanson de son père à Nice, puisque le 551e régiment, bataillon d'infanterie para a libéré Nice, Draguignan et Cannes. Bah, libérés. Donc c'est surtout les citoyens qui se sont libérés. Les Américains sont arrivés quand il n'y avait plus grand-chose à faire. J'étais parti sur l'idée que le personnage chante une chanson de son père sur une place à Nice. Et je m'étais demandé si ça pouvait se jouer en blues, parce que je ne connais pas un musicien de blues. Et je l'ai fait jouer par un ami, il m'a dit c'est tout à fait jouable, et de fil en aiguille, je suis arrivé à demander à un autre ami de me dire est-ce que tu pourrais pas composer un morceau pour juste cette petite page-là. Ce qu'ils ont fait, Benoît Souris et André Charlier, qui vivent au sud de Paris. Et donc, et puis de fil en aiguille, ils se sont réunis à plusieurs dans un studio et ils ont dit bah, écoute, on va essayer d'en faire au moins 3-4. Et 3 ou 4. Donc, ils ont fait non seulement pas 3 ou 4, ils en ont fait 7, ils en ont rajouté un 8e. En fait, pour une petite idée là, d'ajustement et de vérification, on est arrivé à faire 7 morceaux qui font à peu près, je crois que ça fait une demi-heure, quelque chose comme ça. Et on va peut-être essayer de réitérer l'opération parce que ça nous a beaucoup plu pour le tome 10, on verra.
I am a blessed bottom boy, once born free. I'm just a black bottom boy. Wallow, born free.
Oui, moi j'ai lu, je l'ai lu au début. J'ai lu le premier tome comme ça, j'allais dire à sec, entre guillemets, et ensuite je l'ai lu tranquillement en écoutant la musique, et je dois dire que c'est une belle expérience. Ça m'était, y a, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées qui ont tenté ce genre d'expérience un peu totale, mais lire votre album avec la musique, c'est quelque chose de vraiment intéressant, et on a autre chose, on a une épaisseur différente. Ça, c'est, j'espère que les auditeurs qui vont lire cet album prendront le temps d'écouter cette bande son, parce que franchement, elle est formidable.
Faut bien préciser qu'elle n'est pas sous forme de CD, parce que dans l'univers du droit d'auteur, moi je voulais que justement les musiciens aient des droits d'auteur. On va pas faire ça sur YouTube, donc ce sera accessible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et d'autres, il y en a des milliers. Et donc mais en fait c'est pas non plus une bande son qui est faite pour illustrer les événements de l'histoire. Les titres sont en rapport avec des éléments de l'histoire. Il y a Vesubi Blues, pourquoi? Parce que quand Jared se retrouve dans la vallée de la Vesubie, en train de mourir de froid, enfin d'avoir très froid et de, appelons-le comme ça, s'emmerder profondément, le titre, suffisamment, comment dire, il y a une part d'humour dans le titre. Donc en fait, les titres de l'album sont en lien avec des choses qui se déroulent dans l'album, mais ce ne sont pas des titres qu'on va écouter nécessairement en lisant l'album, en se disant, tiens, page 22, il y a un moment un peu plus tendu, il y a une musique suspense, c'est pas ça du tout.
Non, non,
On est
c'est pas
d'accord?
ça. C'est pas tout à fait. C'est pas ça du tout.
Pas du
C'est
tout.
ça apporte quelque chose de plus. Voilà, ça. Je dirais que ça agrandit l'univers, mais ça n'illustre pas les épisodes de
Non, non.
l'album, pas du tout.
Je ne pense pas d'ailleurs que ce qui a été fait par le passé était très concluant. Puis, par contre, c'est toujours intéressant de connaître l'univers musical d'un auteur, parce que moi je suis curieux de la musique que les autres écoutent. D'ailleurs, c'est une grande richesse. Et donc, voilà, ici, elle a été composée par des gens qui n'auraient peut-être pas fait exactement ce que j'aurais fait si j'étais musicien, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de mixer les genres.
J'ai une dernière question, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que vous êtes dans Airborne. Comment un auteur vit comme ça en permanence avec un univers accroché à lui? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger?
Quand j'ai travaillé sur l'Allemagne, c'était relativement lourd. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd, parce que quand j'ai écrit le scénario des tomes 8 et 9, 7 et 8, il était question de camps de concentration, du camp de Dora, de Buchenwald. Donc j'allais visiter les camps. Et franchement, c'est une expérience un peu particulière, hein. Moi, je suis rentré dans la chambre, dans le four crématoire de Dora. Je me suis mis à pleurer naturellement, en fait. Il faisait magnifique. Il y avait des taches de soleil dans l'endroit où on stockait les corps. Il y avait des feuilles, des fleurs dessinées sur les murs. J'ai d'ailleurs dessiné dans l'album. Visiblement, les gens qui exécutaient, qui brûlaient les gens, hein, voulaient que leur bureau soit bien décoré. Il y avait une sorte de folie, tout ça. Et donc, cette expérience du Tomb 7 et 8 est particulière parce que les camps, quand on en parle et qu'on n'a rien vu, bah, voilà, c'est des camps, c'est l'histoire. On nous l'a assez dit, comme on dira. Mais quand on le voit de ses propres yeux, et je n'ai pas vu le pire, parce que c'était pas les camps les pires, mais les salles de torture de Buchenwald, c'est aussi particulier. Donc, quelque chose. Voilà, c'était assez lourd. Mais c'est fondateur aussi.
Ben Philippe, je vous remercie de ces minutes passées ensemble. On aurait pu en parler encore pendant très 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 longtemps. Je rappelle donc le titre de la série, c'est Airborne 44. Le tome 9, le titre est Black Boy. Donc il y a un second volume à venir. C'est publié par les éditions Casterman. Et c'est au prix, je crois, de 14 € l'album. Voilà ce qui
Oui,
est.
je suis très très attaché au fait que les albums restent à un prix démocratique.
Oui, c'est le cas, c'est le cas. Et donc vraiment, il faut lire ce premier volume, et le second, j'imagine, sera largement aussi bon. Et puis, ben les précédents. Voilà, je vous remercie, Philippe, et je vous dis à bientôt.
Merci, Stéphane.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.
Thank you.